L'Iran, la Chine et la Russie réunis à Pékin pour parler du programme nucléaire de Téhéran. Nouveau cadre diplomatique pour des discussions qui sont totalement dans l'impasse aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le géographe Michel Fouché. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur, auteur du livre « Ukraine-Russie, la carte mentale du duel » qui est paru aux éditions, qui est paru dans la collection Tract de Gallimard. On a entendu déjà la Chine demander la levée des sanctions occidentales. Qu'est-ce que peut obtenir l'Iran de cette réunion et de ses interlocuteurs ?
C'est assez difficile à savoir parce que les autorités iraniennes semblent divisées sur la poursuite du programme nucléaire militaire iranien hein, qui continue. Les militaires iraniens, les gardiens de la révolution, sont sur une ligne dure contre les États-Unis et Israël. Mais les diplomates comme Arachi, l'ancien négociateur de l'accord de 2015, et le président de la République sont beaucoup plus ouverts à des discussions. On ne sait pas ce qui s'est dit entre Netanyahou et Trump sur l'Iran. On ne sait pas. L'Iran se sent menacé par un risque de frappe militaire israélienne, ça c'est tout à fait évident. Ce n'est pas forcément la ligne du président américain qui a marqué une ouverture. Du côté chinois, on ne souhaite pas une prolifération nucléaire de la part de l'Iran. La Chine essaye de se mettre en médiatrice entre l'Iran et l'Arabie saoudite avec un certain succès. Et la Russie était déjà dans l'accord de 2015 avec la proposition de recycler l'uranium enrichi. Donc Et en même temps, ces trois pays ont un ennemi commun, un adversaire commun, qui sont les États-Unis.
Les États-Unis qui ont une ligne qui est un peu difficile à lire hein, pour l'instant.
Ah ben
Donald Trump, pendant son premier mandat, avait quitté ce fameux accord de 2015 que vous évoquiez. Là, il a renforcé des sanctions. En même temps, il se dit ouvert au dialogue. Quelle est sa ligne aujourd'hui ?
Mais il n'a pas de ligne là pour l'instant, si vous voulez. Il traite un dossier après l'autre. Alors pour l'instant, la priorité, c'est Ukraine-Russie. Hein. Il commence d'ailleurs à s'impatienter. Hein. Donc ça, c'est son premier dossier. Ce président ne traite qu'un dossier à la fois. Il a un programme. Après, ça va être l'Iran. Il n'est pas du tout va-t-en-guerre. C'est une qualité qu'on peut lui reconnaître. Mais il cherche des succès. Donc, un cessez-le-feu en Ukraine. Et puis après, un deal avec l'Iran, avec toute la gamme des menaces possibles. Parce que Gaza, Israël, Palestine, tout ça, et Arabie, c'est beaucoup trop compliqué pour lui. Donc il n'a aucun succès à attendre et il a besoin d'ici 100 jours d'avoir un succès. Donc sa priorité, c'est l'Ukraine. Il est clair qu'on surveille ce qui se passe. Il y a des manœuvres navales dans au large du détroit d'Ormuz avec les Chinois, les Russes et les Iraniens. C'est vraiment extrêmement difficile de comprendre parce qu'en même temps, une fois de plus, les Chinois et même les Russes ne sont pas favorables à l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire parce que si
l'intention... Est-ce qu'on sait où en est ce programme d'ailleurs ?
Ah ben le programme continue. Et les Européens en juin vont sans doute faire jouer un mécanisme compliqué qui s'appelle Snapback, qui est un mécanisme d'accentuation des sanctions. Hein, c'est pour ça que les diplomates veulent essayer de négocier quelque chose, mais les militaires poussent le guide à aller plus loin et même à une confrontation avec Israël. Vous voyez, donc... Tout dépend de la compréhension qu'on a des intentions du pouvoir à Téhéran. C'est ça ce qui est le plus difficile. Et encore une fois, pour Pékin, qui est quand même l'acteur majeur, et c'est le premier client du pétrole iranien et du pétrole saoudien et du gaz, il y a à la fois contrer les États-Unis et soutenir l'Iran et en même temps empêcher que l'Iran aille au bout de son programme.
Voyez. Alors justement, sur ces liens entre tous les pays, la Russie a fait savoir qu'elle accepterait d'aider les États-Unis à trouver un accord avec Téhéran. On a vu, vous évoquiez l'Ukraine totalement, un rapprochement inédit entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur cette question du conflit ukrainien. Est-ce que, selon vous, le président russe peut effectivement être un pont entre Washington et les ennemis désignés des États-Unis, la Chine et l'Iran.
Certainement pas, certainement pas. C'est pas du tout. Tout ça, c'est de la mise en scène, si vous voulez. L'obsession de Poutine dans un dialogue direct avec Washington, c'est de retrouver le statut de super grand qu'avait l'Union soviétique. Ben, ça, c'est terminé. Mais une des façons, si vous voulez, de faire croire qu'on a retrouvé ce statut, c'est de traiter d'autre chose que l'Ukraine. Ils disent toujours, oui, l'Ukraine, mais on a aussi traité du Moyen-Orient et des affaires globales. Hein. C'est une question de mise en scène pour un statut. Il n'y a rien à attendre de la Russie. Sur l'Iran, la Russie est très dépendante des missiles Shahab iraniens, très dépendante de l'Iran pour contourner les sanctions occidentales, pour trouver des débouchés vers l'océan Indien et l'Asie, etc., etc. Il y a rien à attendre, mais c'est de la mise en scène, vous voyez, c'est façon de dire, vous voyez, je retrouve mon statut parce que je suis consulté sur les grandes affaires du monde. Mais tout ça, c'est de la blague. Le seul pays sérieux maintenant, c'est la Chine.
Et alors justement, est-ce qu'on a une idée de la position de la Chine et de ce qu'elle pourrait avoir comme influence sur cette question-là ?
La Chine a déjà joué donc un rôle de médiateur avec l'Arabie saoudite. Hein. Vous vous souvenez, il y a eu une réunion à Pékin assez spectaculaire. Et la Chine veut de la stabilité, elle ne veut pas de crise, parce que c'est son approvisionnement pétrolier. La Chine est le premier client de l'Iran et le premier client de l'Arabie saoudite, en gaz et en pétrole, hein, et de la région. Elle veut la stabilité, elle ne veut pas que le détroit d'Ormuz soit fermé. Hein. Elle a, je dirais, la diplomatie de sa géoéconomie. Voilà. L'autre point qui est compliqué à Washington, c'est cette espèce de fantasme qu'on pourrait détacher la Russie de la Chine. Hein, c'est un autre sujet, mais qui est en arrière-plan, si vous voulez, dans cette espèce de triangle ou quadrangle Pékin, Moscou, Téhéran, Washington. Il y a l'illusion.
Qui préexiste en fond aussi sur la question ukrainienne, évidemment. Ça serait possible, selon vous ?
De quoi ?
De détacher la Russie de la Chine ?
Mais pas du tout, c'est absolument impossible. Les liens sont trop forts. Les liens, ce sont des liens de vassalité. Hein. Comme a dit le président de la République il y a déjà longtemps, la Russie est devenue le junior partner de la Chine. Le vrai problème de la Russie, ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas l'OTAN, c'est la Chine. Hein, qui a un PNB 12 fois plus important que celui de la Russie, hein, alors qu'ils étaient à égalité il y a 30 ans. Donc c'est ça son vrai problème, et la Russie est très dépendante maintenant de la Chine. Hein, l'amitié sans limite, c'est-à-dire on paie tribut à Pékin qui fournit quand même, je crois que le commerce, en gros les Chinois ont remplacé l'Union européenne comme principal débouché commercial.
Alors puisque vous mentionnez l'Union européenne…
Dollars. Donc c'est une illusion d'essayer de faire du Nixon à l'envers, si vous voulez vous souvenez, Nixon, Kissinger… On reconnaît la Chine pour casser le lien entre Pékin et Moscou et affaiblir l'Union soviétique, ce qui a d'ailleurs très bien marché. Faire l'inverse, c'est ridicule, mais beaucoup de gens le croient, y compris en France, chez nos diplomates. Beaucoup
Vous avez mentionné l'Union européenne, il y a un point qui est quand même assez marquant quand on regarde cette réunion-là, c'est que les Européens, encore une fois, sont laissés sur la touche, comme sur la question ukrainienne d'ailleurs. Est-ce que l'Union européenne peut encore retrouver une place sur la scène diplomatique ?
Enfin, on n'est pas sur la touche, parce que le fameux accord de 2015, c'est une initiative française, c'est Dominique de Villepin.
Mais cet accord-là, il est au point mort aujourd'hui.
Oui, non, il est au point mort à cause de Trump, mais c'est une base pour redémarrer. Quand vous parlez avec les Israéliens les mieux informés, ils seraient tout à fait d'accord, enfin les gens qui ne sont pas dans le camp militariste de Netanyahou, ils seraient tout à fait satisfaits de retrouver ce type d'accord, je dirais, en plus contraignant. Hein. Donc il faudrait essayer d'y revenir. C'est d'ailleurs un peu dans ce sens-là que le président iranien avait fait des déclarations, ainsi que son ministre des Affaires étrangères. Je rappelle que le ministre actuel des Affaires étrangères iranien, Arichi, était le négociateur iranien de cet accord en 2015. Donc ils n'ont pas encore baissé les bras, si vous voulez, ce qu'on appelle les modérés ou les réformateurs, etc., même s'ils sont marginalisés. Donc en fait, et d'autre part, c'est l'Union européenne qui a les sanctions les plus dures. Donc, nous, on a, comme pour l'Ukraine et la Russie, on a le levier des sanctions. Et c'est d'abord une initiative européenne à laquelle on avait associé l'Allemagne, qui avait été endossée par Obama. On a servi de médiateur à ce moment-là. Donc, on est hors jeu pour l'instant. Ben, d'abord, on a d'autres chats à fouetter, hein, si j'ose dire. Mais c'est sur les termes de référence, elles sont d'origine européenne.
Merci beaucoup, Michel Fouché, d'avoir été en ligne avec
nous. Merci à vous.
Géographe, ancien ambassadeur et auteur du livre Ukraine-Russie, la carte mentale du duel, qui a été publié dans la collection Tract chez Gallimard en 2022. Merci.